Merci. Alors, moi, je suis un peu intimidée parce que je n'ai pas, comme disait très joliment tout à l'heure Sylvie, le surplomb de la recherche. Je suis alors pour le compte vraiment une praticienne, c'est-à-dire un pair pour vous, et vous savez que le plus difficile, c'est de parler devant ses pairs. Du coup, c'est à la fois très intimidant, d'autant que je ne parle pas depuis une recherche que j'aurais menée, mais depuis plutôt des réflexions, des travaux, des outils. Alors c'est vrai que je suis inspectrice depuis extrêmement longtemps, IUN chargée de mission pour l'école maternelle depuis 7 ans, et je suis membre du groupe national de pilotage avec Viviane Bouys pour l'école maternelle depuis cette année. Et à ce titre, j'ai travaillé avec la DGESCO sur l'élaboration des ressources pour le nouveau programme et beaucoup à l'élaboration des ressources sur l'évaluation positive à l'école maternelle. J'avais pas du tout prévu de commencer par le rapport de l'inspection générale de 2011, et puis comme vous en avez parlé tous les deux, et que forcément ce rapport de l'inspection générale nous a fait beaucoup de bien, à nous l'école maternelle, surtout qu'il venait après une horreur de rapport Bentolila de quelques années avant, qui nous disait en gros que nous à l'école maternelle on était nuls, bons à rien, incompétents, incapables, qu'on ne savait rien, qu'on ne connaissait rien. Du coup, ce rapport de l'inspection générale qui reconnaissait la professionnalité de l'école maternelle, qui reconnaissait ses compétences, mais en même temps qui ciblait un certain nombre de difficultés, ça nous a à la fois fait beaucoup de bien parce que ça nous a restauré, parce que je crois que nous aussi, les gens qui travaillent sur le terrain, on a besoin de temps en temps d'être restaurés et confortés dans notre compétence professionnelle. Et puis en même temps, quand même, ça a pointé un certain nombre de problèmes. Alors comme j'avais pas prévu d'en parler, la diapo que je vais développer, mais je l'ajouterai à mon diaporama, je voudrais, à la lumière de ce que Yves et Sylvie ont dit, rappeler 3 ou 4 points de ce rapport de l'inspection générale de 2011, parce que d'abord, de mon point de vue, les programmes, le nouveau programme de l'école maternelle en est totalement issu. Si on reprend le nouveau programme de l'école maternelle, on suit le fil du rapport de l'inspection générale de 2011, très exactement, et du coup c'est intéressant de voir d'où on vient et où on va, me semble-t-il. Donc 5 points qui conduisent à réinterroger un certain nombre de choses et qui vont ultérieurement poser des problèmes de formation, c'est complètement évident. Premier point, l'espace de l'école maternelle, avec des coins-jeux qui se sont considérablement réduits et qui nous conduisent à avoir des écoles maternelles où toutes les classes se ressemblent, de la section de tout petit quasiment à la grande section, et qui empêchent les enfants d'entrer dans des pratiques exploratoires et de manipulation qui leur sont pourtant indispensables. Je vais très vite parce que, c'est pas de ça que j'avais prévu de parler. Le rythme des activités, c'est devenu une espèce de caricature absolue, l'organisation de la journée d'école maternelle. On est quand même un peu sur le schéma accueil, regroupement, atelier tournant à la semaine, éducation physique, ou le contraire, dans beaucoup d'endroits, bien sûr, pas tous les endroits, mais dans beaucoup d'endroits, dont on voit et dont on va voir que les prescriptions des programmes ne nous permettent plus de continuer à travailler de cette façon-là. Le rapport de l'inspection générale disait, le rythme, les activités et les modes de regroupement se sont totalement uniformisés. Vous voyez, c'est problématique qu'on ait une organisation de la journée uniforme pour les enfants qui ont 3 ans et pour les enfants qui en ont 5, voire 5 et demi. Troisième point, les exercices sur fiche. Il y avait un long développement sur les exercices sur fiche. Vous en avez parlé avant moi. Moi, je considère qu'on est totalement parasité par les fiches. Alors, je suis d'accord avec ce qu'a dit Yves, c'est pas seulement le nombre et la quantité et le contenu, n'empêche que c'est comme si tout l'apprentissage aujourd'hui passait par les fiches dans nombre d'endroits. Or, on sait bien que la plupart du temps, les fiches ne portent aucun apprentissage pour les élèves, mais servent à les occuper à des exercices dont ils ne perçoivent pas toujours le sens et l'enjeu. Donc, il était écrit dans le rapport, les exercices sur fiches envahissants. On fait entrer trop vite l'enfant dans la représentation avant de le faire travailler sur le réel. Et on sait bien, et Viviane le répète à l'envi, c'est d'abord le faire, puis le regarder et faire, et puis le dire sur le faire. Et puis tout le processus de secondarisation qui va faire qu'à un moment donné, on va pouvoir construire les outils. Et on sait bien que les fiches qui nous envahissent dès la petite section s'opposent à ce travail-là. Quatrième point, et là ça va résonner avec l'évaluation positive, la communication aux parents, complètement issue de la mise en place du socle et donc de ce livret d'évaluation qui nous a amené, nous, l'école maternelle, au risque d'y perdre complètement notre âme, à avoir des bulletins d'évaluation avec du acquis, non acquis, en cours d'acquisition. Tout à l'heure, Yves disait avec un clin d'œil, mais moi je vais le dire sans clin d'œil, je sais bien que vous, vous êtes les méchants bourreaux. Eh bien, l'école maternelle, de temps en temps, s'est transformée en méchant bourreau pour les enfants, sans le faire exprès et sans le vouloir, sous les coups de boutoir de cette évaluation à mettre en place, à proposer 3 fois par an, avec des acquis, des points rouges, des points verts, des points oranges, des smileys rouges, enfin, un système de codification. Oui, oui, parce que vous savez que le monde de l'édition nous suit à la trace, et donc on publie maintenant des smileys de couleur. Donc le pire du pire, quand on évalue les enfants, non seulement on peut leur mettre des points jaune, rouge, vert, on connaît tous la symbolique des feux tricolores dans ce pays, même les parents qui viennent d'ailleurs, et le rouge est porteur d'une symbolique catastrophique. Comme par hasard, il envahit les cahiers et les livrets d'évaluation des élèves les plus fragiles. Quant au smiley, je ne vous refais pas le coup de la capacité des enfants à comprendre très rapidement le non-verbal et en particulier ce que disent les silhouettes que l'on présente devant eux. Donc celui qui a en permanence le petit bonhomme qui fait la tête, voire pire, le petit bonhomme qui ne ressent strictement rien, sa bouche est plate, vous voyez ce que ça donne. Donc oui, l'école maternelle s'est transformée un peu, sans le faire exprès, en méchant bourreau de l'accompagnement des travaux des élèves qui, en plus d'être sur fiche, renvoient à des codes d'évaluation couleur qui sont totalement mortifères. Et quand je tiens ce discours-là, parce que je le tiens aux enseignants, ils montrent qu'ils ne se rendent même pas compte de ce que tout cet outillage-là produit chez les enfants qu'ils accueillent dans leur classe. Or, vous savez tous, parce que vous êtes formateurs, qu'il suffit d'arriver dans une classe maternelle, de s'asseoir à côté d'un groupe d'enfants, inévitablement le hagnon de la classe, vous savez le hagnon petit Nicolas, le hagnon de la classe va arriver, va vous dire que lui il est absolument formidable, remarquable, donc vous, vous allez lui demander comment il le sait, et vite il va aller vous chercher son cahier dit de vie bourré de fiches, ou bien son cahier d'évaluation, et il va vous montrer que lui il n'a que du vert, et il va immédiatement vous signaler que bidule. Alors lui, il comprend rien, hein. Et vous dites comment est-ce que tu le sais, et il répond, dans son cahier, il n'y a que du rouge ou que des, etc., etc. Donc, on peut dire que sur la question de l'évaluation, nous sortons, enfin j'espère que nous allons en sortir, d'une période où effectivement, en 5, 6, 7 ans, je ne sais pas ce qui nous est arrivé à nous, l'école maternelle, mais nous avons quelque part un peu perdu notre âme à travers des modalités de travail et d'évaluation qui ne correspondent en rien à ce qui est notre projet initial. Le dernier point que j'avais relevé et qui renvoie... Oui, 5 ans, c'est peut-être trop tôt, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça, c'est mon côté extrêmement optimiste. Vous avez raison, ça fait peut-être 20 ans. Le dernier point que signalait le rapport de l'inspection générale, c'était... la construction d'une posture d'élève, beaucoup trop rapide, beaucoup trop normée. Alors on était un certain nombre à être complètement enchantés de voir arriver la question de la posture d'élève dans les programmes de 2002. On s'est dit chouette, cette question de la construction progressive d'une posture d'élève, ça y est, c'est arrivé. Et en fait, ça s'est transformé à toute vitesse et presque malgré nous, en espèce de norme qu'on oppose à nos élèves, posture d'élève étant quand même beaucoup trop souvent compris comme... la capacité pour nos élèves à rester assis sur la tâche qu'on leur a assignée et tranquille pendant qu'il se passe autre chose. Alors du coup, ce tableau très rapidement brossé est forcément caricatural et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Alors bien sûr, la question de l'évaluation positive qui est dans le préambule du nouveau programme et qui peut-être aurait pu échapper à une partie des enseignants qui vont parfois un peu vite à la description des domaines et des attendus de fin de cycle. Cette question de l'évaluation positive, forcément, après le rapport de 2011, ne pouvait qu'arriver. Alors forcément, quand on parle de... quand on parle de quelque chose qui est lié au programme, on parle des prescriptions. Et que dit que dit le nouveau programme quant à nos prescriptions de faire? Une petite précision, le programme, ce sont les prescriptions, les ressources, ce sont des documents d'accompagnement qui ne sont pas des prescriptions. Donc voilà, il faut pas. Là, on est bien dans les prescriptions. École bienveillante, on reviendra dessus, c'est quand même la première fois, même si ça paraît une évidence, qui apparaît dans notre programme de l'école maternelle, l'idée de la bienveillance. Le principe de l'éducabilité cognitive qui doit être élevé comme un étendard dans la conduite des apprentissages. Ils sont tous capables d'apprendre et de progresser et on sait tous que les découragements successifs des enseignants, et on les comprend, pourraient les amener à penser que certains d'entre eux, un peu arrêtés en race campagne, à un moment donné, peut-être on arrêterait d'avoir pour eux cette ambition qu'on a pour tous les autres, qu'ils soient capables d'apprendre et de progresser. Et puis, la question de la confiance. Alors, c'est important, la question de la confiance. Le programme nous dit, en manifestant sa confiance à l'égard de chaque enfant, c'est difficile. Il y en a pour qui manifester au quotidien la confiance alors qu'ils témoignent parfois de comportements difficiles à gérer dans des classes de 25 ou 30. La question de la confiance, elle est difficile à tenir et ça n'est pas rien que d'écrire qu'on a à manifester la confiance à l'égard de chaque enfant. L'école maternelle l'engage à avoir confiance dans son propre pouvoir d'agir. Vous voyez la responsabilité qu'on nous donne, on nous dit... Si vous êtes capables, les enseignants, de leur manifester dans l'ici et maintenant de la totalité de la durée de l'année scolaire la confiance que vous leur portez et donc l'ambition que vous portez pour eux, alors on peut espérer qu'ils auront confiance dans leur capacité à agir et à penser. C'est pas rien quand même. Donc, dans la capacité de l'enfant à agir, à penser, à apprendre et à réussir sa scolarité et encore un peu au-delà. Bon, je vois que la dernière ligne, elle saute à chaque fois. Prescription. Deuxième série de prescriptions. Ah oui, il faut que je fasse avancer. Voilà, deuxième série de prescriptions. Parce que quand on a dit ça, on a dit qu'une partie de ce que les enseignants devaient faire, on regardera après, peut-être demain, les problèmes de formation que ça va nous poser. Parce que nous pouvons imaginer que nous en sommes très loin. On nous dit, l'enseignant. L'enseignant, qu'est-ce qu'on attend de lui? Il est attentif à ce que l'enfant peut faire seul. Attentif, ça veut dire observation, attention, focalisation. C'est pas écrit attention à ce que les enfants peuvent, c'est écrit à ce que l'enfant peut faire. Du coup, immédiatement, forcément, quand on est enseignant, on se dit comment je m'y prends, moi, avec 30, pour regarder individuellement chacun des 30. Seul, avec le soutien de l'adulte ou celui de ses pairs. Donc immédiatement, tout de suite, on voit que la question de l'évaluation, elle va être pensée avec une idée de parcours, de progressivité, d'engagement, comme disait Yves tout à l'heure, ou Sylvie, je ne sais plus, mais pas d'abord de produit fini. C'est pour nous un renversement de tendance dans la plupart du temps. Deuxièmement, alors ça, ce qu'on a du mal à faire un peu à l'école maternelle, et les programmes ne nous y ont pas beaucoup aidés jusqu'à présent, tient compte des différences d'âge et de maturité. Ben oui, on le sait tous, entre celui de janvier et celui de décembre, celui qui est issu d'une fratrie et celui qui est enfant unique, enfin toutes les différences qu'on peut imaginer, filles, garçons, les conduites familiales eu égard au langage, on sait bien qu'ils sont tous complètement singuliers. Sauf qu'on le sait, mais c'est très difficile à gérer à l'intérieur d'une classe maternelle. Et on a tendance assez vite à penser qu'il y a des attendus pour, entre guillemets, le groupe. Et j'en veux pour preuve que les grilles de progressivité qui ont été fournies pour les programmes de 2008, qui étaient des grilles indicatives de progressivité, sont devenues en 5 ans des grilles normatives d'attendus pour chacune des classes de l'école maternelle. Ce qui est tragique parce que dès qu'on pose un attendu nécessaire, obligatoire, tous ceux qui sont en dessous de la barre de l'attendu sont immédiatement des, entre guillemets, en difficulté. Et ça y est, c'est fini. Et la question de la confiance et du progrès et du parcours et de l'ambition que l'on pose pour chacun des enfants, c'est perdu. Les différences d'âge et de maturité, alors immédiatement derrière, on peut lister les questions de formation. Oui, mais comment on fait? Oui, mais comment on fait pour les regarder chacun d'entre eux? Oui, mais comment on fait pour les regarder chacun d'entre eux dans sa singularité de parcours d'apprentissage et donc du fait qu'ils ne sont pas tous au même moment et au même endroit? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ni dans les programmes, ni dans les documents ressources, ni dans les documents sur l'évaluation, vous ne trouvez la moindre indication concernant les compétences à construire par niveau de classe. C'est délibéré, ça n'est pas un oubli, il n'y en aura pas. Alors c'est pas fini, quand on a fait ça, on n'a pas fini. S'attache à mettre en valeur, au-delà du résultat obtenu, le cheminement. Voilà, on y est, pile, poil. La question de l'évaluation positive, c'est la question du cheminement. Ça, c'est compliqué, parce que quand on articule ça avec ce qu'on a dit avant, ce qu'il peut faire seul, ou avec ses pairs, ou avec l'adulte. Donc, en fait, on va commencer à noter l'engagement dans un parcours de réussite, les singularités, les différences d'âge, et ensuite, il va falloir repérer le cheminement de l'enfant. Et c'est pas encore fini, puisque quand on a fait tout ça, il va falloir permettre à chacun des enfants d'identifier ses réussites. Donc là, on voit bien qu'on a tout l'accompagnement langagier individualisé, et pas individuel nécessairement, mais en tout cas individualisé, qui va permettre, sur le mode de ce que Sylvie et Yves ont évoqué, chacun pour leur domaine d'apprentissage, les réussites qui sont en train de se gagner, passer de la trace au début des lettres, commencer à construire des compétences de compréhension, mais être capable de catégoriser des ensembles de collections en fonction, par exemple, de beaucoup, pas beaucoup. Voilà, quelles sont les réussites ? Comment on en garde les traces et comment ça va pouvoir évoluer? C'est-à-dire, quand on est à ce repère de réussite-là pour cet enfant-là, dans cet enjeu-là, qu'est-ce qu'on attend derrière? Qu'est-ce qui va se passer après? Et l'idée, ça serait de pouvoir rendre visible pour chacun des enfants tout cela. Et enfin, dernier point du prescrit, hein, là on est toujours dans le prescrit, j'ai recopié ce qu'il y avait écrit dans le programme, recopié. Quand on a fait tout ça, on formalise. On formalise, et donc tout de suite, on voit, nous, que formalise, ça veut dire l'outil, le document qu'on appelle le carnet de suivi. Si on était avec des enseignants, rien que cette diapo-là, on pourrait se dire, on va reprendre chacun des points, on va les décortiquer, comme disait tout à l'heure Patrick, on va avoir une petite fiche où on note toutes les questions, tout ce qu'il va falloir travailler, on fait quoi, on fait comment, quelles questions métiers, quels problèmes, sans parler de toutes les résistances qui sont liées à la représentation qu'on s'est construite avec le temps, de comment on travaille à l'école maternelle, et comment on travaille à l'école maternelle, c'est pas ça. Eh oui, et donc la seule réponse qu'on peut donner aujourd'hui, à mon avis, elle est là. Alors là, on n'est plus dans le prescrit. C'est comment j'essaie, moi, juste moi, Evelyne Collin, d'identifier les questions que ça pose. Pour moi, la première question que ça pose, c'est serions-nous dans une école qui enseigne? Et on se disait en aparté avec Sylvie tout à l'heure, en écoutant l'intervention d'Yves, et vous le savez tous, on est souvent à l'école, élémentaire comme maternelle, mais là, on est à l'école maternelle. On est souvent dans une école qui attend des comportements qui sont des traces de compétences pour des compétences qui ne sont pas enseignées. On est tout le temps là-dedans, et nous encore plus à l'école maternelle. Du coup, s'agirait-il d'imaginer une école qui enseigne ? Et du coup, qui attendrait des traces de comportement, de réussite, de parcours engagé, qui renverrait à de l'enseignement qui a été dispensé. J'ai pas dit que ça répondait à la question de comment on fait avec les 30 et tout ça. Mais il me semble qu'avant de penser organisation, tout ça, comment on va faire, il me semble, moi, à l'endroit où je suis, hein, qu'il faut d'abord se poser cette question-là. Et du coup, pour moi, toute seule, je me déroule pour moi ce que ça signifierait, une école qui enseigne. Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Patrick sur collectif et individuel. Il est évident que la question des objectifs, par exemple, autrement dit, qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut déclencher comme type d'engagement dans un parcours d'apprentissage, on est dans du collectif, forcément, bien sûr, puisqu'on part de ce qui est notre prescrit, c'est-à-dire le problème, mais on est quand même dans de l'individualiser, parce que la mise en œuvre des démarches, des séquences, des séances, elle va être adaptée à l'observation qu'on aura pu faire des élèves, au diagnostic et à l'endroit où ils sont. Et forcément, on ne va pas faire nécessairement pendant les 15 séances dont parlait Sylvie ce matin et avec lesquelles je suis complètement d'accord, on va pas faire 15 séances collectives, la même chose pour tout le monde. Donc du coup, bien sûr qu'on est dans du collectif, mais on est déjà dans de l'individualisé. Moi, je différencie vraiment individuel, qui veut dire avoir 30 enfants, qui ont chacun un parcours différent et qu'on suit individuellement, et des enfants dont on peut percevoir les niveaux de compétences et les besoins et qu'on est capable, à certains moments, de regrouper par deux, par trois, par quatre, par une demi-classe, sur des enjeux d'apprentissage qui leur sont accessibles. J'appelle ça de l'individualisation, c'est pas le un pour un à longueur de temps. Donc la question des objectifs. Sylvie, on a beaucoup parlé ce matin. Ça tombe bien, je ne l'avais pas du tout détaillé, mais il n'y a plus d'enseignement aujourd'hui sans une explicitation des apprentissages visés, des tâches, du produit fini, des processus. Je vous renvoie à la diapo de ce matin qui était complètement complète. Donc la question de l'enseignement explicite, à soi tout seul un enjeu de formation. À soi tout seul un enjeu de formation. Alors, est-ce qu'on peut tout expliciter ? Non, la question a été posée. On sait bien qu'il y a des enjeux majeurs, mais on sait en tout cas qu'à chaque fois qu'on engage les enfants dans quelque chose avec une conduite d'activité, il y a de l'explicitation. À quel niveau, comment, pourquoi, à produire. Alors, des démarches d'apprentissage qui s'inscrivent dans la durée. On sait bien que la juxtaposition de séances qui n'ont aucun lien entre elles, qui ne permettent pas aux enfants de découvrir, de s'approprier, de s'entraîner, de mémoriser, de transférer, voilà, la durée, c'est-à-dire, 10, 12, 15 séances avec un enjeu, avec des reprises, des retours en arrière, là encore, à soi tout seul, un enjeu d'apprentissage. Alors, bien sûr, cette idée d'essayer de s'entraîner, je viens d'en parler, et puis, tout au long de tout ça, ce qu'on appelle aujourd'hui une observation formative, bien sûr, qui permet de réguler les parcours d'apprentissage et donc qui permet de produire de l'étayage adapté à ce que renvoient les enfants, c'est-à-dire observation, prise d'indices, réajustement immédiat, différé, en revoyant la taille des groupes, en réorganisant, en reprenant. Alors, c'est pas complet, bien sûr, c'est juste, moi, j'ai essayé de me lister ce que ça voudrait dire. On pourrait rajouter beaucoup de choses. Quand on liste ensemble comme ça ce que ça pourrait être une école qui enseigne, immédiatement, et Viviane Bouys commence à le dire, y compris dans ses conférences nationales, donc on en est tous très heureux, immédiatement, cette espèce de machin, accueil, regroupement, atelier tournant à la semaine, éducation physique, et ça fait les 3 heures de la matinée, on voit bien que ça va plus du tout. Et donc une fois qu'on a posé tout ça, et qu'on s'est dit, mince, il va falloir travailler sur la question des démarches d'apprentissage, de la durée, de l'observation active, et j'en passe, et des meilleurs, on va se retrouver confronté à un problème qui est le dur de l'école maternelle, là, quand même, aujourd'hui, qui est la question de l'organisation de la journée, de la semaine, de la quinzaine, des 3 semaines d'apprentissage, de l'emploi du temps, des séquences, de l'utilisation du temps de l'école maternelle. Alors, excuse-moi, Sylvie, je reprends ce qu'on se disait à table toutes les deux, elle me disait... On n'arrête pas d'en ajouter dans la hotte de l'école maternelle. Faut faire ci, faut faire ci, faut faire ci, faut faire ça. Et puis, on n'en enlève jamais. Alors, moi, je pense qu'on pourrait enlever de la hotte de l'école maternelle les temps d'accueil vides de sens, les rituels qui ne servent strictement à rien, les ateliers tournant à la semaine où il s'agit de se débarrasser de la tâche qui n'a aucun sens, et où les enfants, quand vous les interrogez, disent, vous lui dites, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais la fiche. Et il dit, je fais la fiche. C'est-à-dire que l'objet de son travail, je fais, ça veut dire je me débarrasse de, je le tamponne, seul moment jouissif de l'activité, mettre le tampon de la date, ça c'est un truc, on ne s'en priverait pour rien au monde. Après on va le déposer dans la corbeille et enfin on peut vivre. Et vivre consiste à investir, si on en a le droit, et avec les colliers de nombres qui permettent d'y aller à 2, 3, 4 ou 5, si on en a le droit, des espaces aménagés dont on a vu, en introduction dans le rapport de 2011, qu'ils se sont complètement uniformisés et que les espaces de bricolage, d'expérimentation, de découverte, d'atelier, de chantier, de que sais-je encore, n'existent plus. Donc on sait que ça va plus pouvoir aller. Et donc on se repose à nouveau la question de qu'est-ce qu'on... Alors je sais c'est plus 6 heures, mais avec toutes les organisations diverses de la semaine scolaire, qu'est-ce qu'on va faire des 24 heures ? Qu'est-ce qu'on va faire des 24 heures ? Alors on est un certain nombre à penser que dans les 24 heures multipliées par les 36 semaines, je crois, on peut tranquillement, parce qu'on a 3 ou 4 ans, on le répète tout le temps, on peut faire rentrer le programme. On peut faire rentrer le programme en adaptant, en ajustant. Mais il faudrait dégager tout ce qui ne sert à rien et qui gaspille du temps. et qui gaspille sérieusement du temps. Alors, deuxième partie des prescriptions, puis après je vais en arrêter avec les prescriptions. Ça c'est le texte, hein. À la rentrée 2016, deux outils permettant d'assurer le suivi des apprentissages et des progrès des élèves sont à mettre en œuvre. Le carnet de suivi des apprentissages renseigné tout au long du cycle 1 et la synthèse des acquis des élèves pensée comme étant la somme synthétisée de tout ce qui a été appris et noté dans le carnet de suivi. Et forcément quand on en arrive là, forcément les enseignants disent: alors c'est quoi le carnet de suivi? Et du coup, on oublie tout ce qu'il y avait avant, tout, pour dire c'est quoi le carnet de suivi? C'est un cahier, c'est un classeur, c'est chronologique, c'est par domaine, qu'est-ce qu'on écrit dedans, est-ce qu'on peut coller des vignettes? Et là, le pauvre formateur sent ses bras qui tombent par terre et se dit: bon, alors va falloir que je recommence tout, parce que j'ai essayé de leur faire comprendre que ce qui était important, c'était pas le document. D'ailleurs, dans les outils qu'on a mis en ligne pour l'évaluation positive, vous avez remarqué que les exemples de carnet sont réduits au minimum, c'est délibéré, et que tous les outils d'avant sont un peu exponentiels. Mais voilà, donc, encore un point problématique de formation, comment faire en sorte qu'il ne soit pas focalisé sur la question du fameux carnet? Et ça ne va pas être simple. Une partie de la suite de ce que je vais dire est entièrement pompée, si vous me permettez l'expression, sur la merveilleuse intervention de Viviane Bouys lors du séminaire des UN maternelles il y a 10 jours, parce que j'aurais pas pu le dire mieux qu'elle et que j'ai pas la prétention de faire mieux qu'elle. Alors j'ai repris une partie de ses diapositives, je me les suis arrangées à ma sauce, mais ça lui appartient. Alors... Elle dit, évaluation positive, deux gestes fondamentaux et complémentaires. Si on ne pense pas l'évaluation positive dans la complémentarité de ces deux gestes, on a perdu l'enjeu, l'intérêt, ce qui fait le sel et l'originalité de cette évaluation positive. Première catégorie, pour ne pas redire geste, la question des enfants et de leurs parents. Et donc l'idée que ça concerne bien les enfants en train d'apprendre. Ce sont bien les enfants en train d'apprendre qui vont être les premiers destinataires au moins de la parole de l'enfant qui va les aider à mettre des mots ou qui va mettre des mots pour eux sur ce qu'ils sont désormais un peu capables de faire avec de l'aide, un peu capables de faire un peu plus tout seul, un peu capables de faire tout seul. Je reprends l'exemple parce qu'il est facile à illustrer celui-là tout à l'heure sur la trace. Prenons la question de la trace. Les tout-petits, y compris les tout-petits dans nos dispositifs de moins de 3 ans, assez rapidement prennent des outils scripteurs de quelque nature que ce soit et laissent des traces. Et nous, avec les tout-petits, on appelle ça des traces, parce que ce ne sont que des traces. Et ils en jouissent assez longtemps. Et pour nous, c'est le premier signe d'un quelque chose qui a été laissé quelque part. Souvent, ça déborde une trace. Et puis, il arrive toujours un moment, à 2-3 ans, à 3-4 ans, où l'enfant va destiner quelque part sa trace. C'est-à-dire, il va dire « j'ai fait ça ». Alors, ça n'a aucun rapport avec le réel de ce qu'il prétend avoir fait, mais lui, il a une intention. Pour nous, par exemple, cette première intention associée à la trace est un premier élément de réussite dans un parcours de réussite. Et c'est bien cette question de donner des repères, de verbaliser les réussites, qui va montrer à l'enfant qu'il est en train d'apprendre, y compris si les réussites font un demi-millimètre de haut. Y compris si les réussites font un demi-millimètre de haut, alors que la réussite de celui d'à côté fait 1 centimètre de haut sur le même enjeu d'apprentissage. Donc l'idée, c'est bien une évaluation qui repère des réussites et qui donne à chacun des élèves qui s'engagent dans un parcours de réussite la valeur de l'engagement de ce parcours de réussite. La deuxième chose qu'il va nous falloir apprendre, parce que on est tous marqués par ce système scolaire qui traque les manques, qui traque les difficultés, qui ne repère les élèves qu'à l'aune de ce qu'ils ne savent pas faire. Nous sommes issus de ce système scolaire, ils en sont issus, et on a tous envie d'y faire rentrer les enfants. Or, il faudrait que nous arrivions à penser ce qui manque à ces enfants-là en train d'apprendre, comme les marches du parcours qui va s'organiser. Et ça, c'est bien référé à la confiance qu'on attribue d'autorité, si j'ose dire, à chacun des enfants, et à l'ambition, à notre ambition pour chacun d'entre eux. Et puis une évaluation qui soit pour chacun des enfants un soutien à sa motivation à apprendre, parce que mine de rien, c'est pas très très simple ce parcours d'apprentissage, et c'est parfois un peu compliqué. Alors j'ai coutume, quand je parle de ça, quand j'interviens devant des enseignants, de prendre un exemple que j'aime énormément et qui est issu de nos classes de 2 ans. Vous savez, nos dispositifs de 2 ans fermés où on accueille des enfants loin du système scolaire. Assez rapidement, parce qu'ils ont 2 obsessions, les enfants de 2 ans, ils empilent et ils alignent. Ce sont leurs 2 obsessions globales dans la vie à 2 ans. Et donc il y a toujours un moment où ils commencent à aligner. Et dès qu'un enfant commence à empiler, une grande partie de l'effectif commence à empiler. Ça, c'est ma façon de dire que copier, c'est super intéressant, ça permet d'apprendre. Et ce qu'on observe chez les enfants de 2 ans, c'est qu'à partir du moment où ils ont commencé à empiler, ils ne s'arrêtent pas. Pourtant, c'est difficile. Les empilements se cassent la figure, ça ne fonctionne pas, ils ne savent pas organiser, surtout quand ils ont pris des objets qui sont de taille et de forme variables. Bien sûr, ils n'ont pas compris que du plus grand au plus petit et tout ça. Mais on observe qu'ils ne s'arrêtent pas, c'est-à-dire que sur un projet qui est le leur et qui n'est pas simple, ils sont capables d'avoir une pugnacité de 3 semaines, de 4 semaines pour arriver finalement à empiler. Et je vous assure que quand ils ont réussi à empiler, ils vont tirer la maîtresse par la manche pour lui montrer qu'on compris quand ils ne sont pas encore dans le langage. Et alors, une fois qu'ils ont réussi à empiler, nous, les enseignants, on se dit, bon, maintenant, il va arrêter d'empiler, parce que ça va. Eh bien, ils continuent. Pourquoi ils continuent? Parce qu'ils jouissent du plaisir d'empiler. Et jusqu'à temps qu'ils aient réussi à épuiser ce plaisir, cette jouissance de la réussite, ils continuent. Et je me dis parfois, il faudrait qu'on arrive à montrer aux enseignants que c'est exactement ce chemin-là qu'il faut qu'ils fassent prendre à leurs élèves, de la réitération, des efforts à faire, de l'avancée. Et comme on est sur des apprentissages cognitifs, sur les apprentissages qu'on vise, il va falloir du langage, de la félicitation, de l'accompagnement, de la verbalisation des réussites pour que la motivation soit soutenue. Et puis le deuxième domaine, qui est tout à fait complémentaire au premier, c'est la question des apprentissages. Autrement dit, l'évaluation positive, elle est intéressante si elle est utile pour ajuster les propositions. Autrement dit, si elle est un outil d'organisation au quotidien des enseignements. Et ça, c'est pas gagné du tout, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire. Et là encore, on peut se renvoyer la question comment on va leur permettre de construire ce parcours-là. Dernier point, une démarche qui s'appuie sur des indicateurs de progrès, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, une organisation de l'évaluation avec 2 entrées complémentaires et articulées entre elles, la question des enfants et de leurs parents, la communication, et puis la question de soutenir, accompagner, ajuster le parcours des élèves. Alors elle dit, Viviane Bouys, l'évaluation positive c'est d'abord une question de regard. Et là, je ne l'ai pas bougé du tout, parce que d'abord, nous sommes restés un peu bouche bée, puis ensuite, on a regardé ce que ça voulait dire. Elle dit, observer les enfants, c'est aussi porter un regard sur eux. Au fond, est-ce que tous nos enfants d'école maternelle bénéficient aujourd'hui de ce regard d'intérêt de l'adulte tout au long de leurs apprentissages et tout au long de l'année? Qui leur dit ce que disait Sylvie ce matin? Ça va être difficile. Va falloir y arriver, mais je suis là. Alors, le regard d'intérêt de l'adulte, mais aussi ce qui est déterminant et qu'on oublie souvent, en particulier pour nos enfants les plus fragiles, dans le rapport de 2011 de l'inspection générale, il était aussi noté dérive de l'école maternelle vers une primarisation qui fragilise les enfants les plus fragiles de l'école. Bon, voilà. Donc, la nécessité pour l'enfant d'être vu par un adulte qui va le verbaliser, le noter et le socialiser. Tout à l'heure, il va dire la réussite individuelle, la réussite collective. Eh ben oui, je réussis au milieu d'un groupe et plus jamais aucun enfant de l'école et de la classe ne pourra dire lui, machin là. Mais lui, il comprend rien, il est bête. Bah si, lui, régulièrement, on entend les félicitations et les encouragements de l'adulte à son égard. Donc le besoin d'être vu en situation de réussite, et ça nous renvoie tout de suite à, est-ce que je prends le risque quand je suis enfant ? On sait que quand on est adulte, on le prend pas très souvent. Est-ce que je prends le risque d'être vu par l'adulte et par mes pairs en situation de difficulté ou d'échec ? À quelles conditions je peux accepter d'être vu en situation de difficulté ? C'est-à-dire à quelles conditions je peux accepter d'entrer dans une démarche d'apprentissage ? Parce que apprendre, c'est je monte, je tombe, et puis progressivement ça va aller un peu mieux. Donc à quelles conditions j'accepte ? Et du coup, la nécessité absolue de rendre visibles les réussites. Alors, quand on a commencé à parler de cette évaluation bienveillante, moi, je suis passée dans toutes les circonscriptions de mon département et j'ai fait des conférences devant tous les enseignants d'école maternelle. Et leur première question, c'était donc l'évaluation positive, c'est facile. On va juste écrire ce qu'ils savent faire, hein. Jamais on dira ce qu'ils savent pas faire, comme ça on trompe tout le monde, l'enfant, les parents. Et puis quand on aura l'évaluation de fin d'école maternelle, là tout à coup tout le monde va découvrir la supercherie, les enfants en premier, les parents en second, et s'apercevoir qu'on les a trompés pendant 4 ans. Y compris des enseignants extrêmement véhéments disant vous allez tous les tromper, c'est inadmissible, quand est-ce qu'on va dire aux parents qui sont en difficulté, etc., etc. Et ça c'est compliqué. Alors, ce qu'on a envie de dire, c'est que dans l'évaluation positive, c'est le regard qui est positif, c'est l'esprit qui est positif, c'est l'idée d'accompagner et de faire avancer, loin de nous l'idée que l'on va masquer des écarts qui pourraient être problématiques. Tout à l'heure, on a parlé d'écarts entre des tracés de lettres, des enfants avec des tracés encore très malhabiles, d'autres encore... d'autres plus habiles. Et j'ai en tête une diapo d'un des conférenciers que j'ai vu il y a 15 jours qui met la photo d'un nouveau-né. Vous voyez, un nouveau-né, à quoi ça peut ressembler. Et la photo d'un enfant de 1 an. Et qui dit, est-ce qu'on aurait l'idée de demander au nouveau-né de lui dire, lève-toi et marche. Ce qu'on trouve normal d'attendre peu ou prou d'un enfant de 12 ans. Bah oui, mais dans une classe maternelle, il y a des enfants du 1er janvier, des enfants du 31 décembre. Alors même si les écarts se réduisent tout doucement, vous voyez bien le problème. Donc la question de l'écart, elle est problématique pour nous à l'école maternelle. Et la question, c'est bien, à quel moment l'écart doit nous inquiéter ? À quel moment l'écart doit nous inquiéter en tant qu'enseignant ? Non pas pour dire, il lui manque cela, c'est dramatique, il est en difficulté, c'est grave, on peut plus les faire redoubler, mais il va pas apprendre à lire, mais bien pour dire, comme il y a un écart qui commence à être un peu préoccupant, deux propositions immédiatement. La première, dans quel micro-groupe je l'intègre pour faire une boucle un peu de rétroactivité, revenir avec lui sur des apprentissages qui n'ont pas été bien construits, sur des temps qui peuvent être informels. Et moi aussi, j'aime beaucoup le temps de l'accueil du matin pour un certain nombre de travaux, de petits groupes très intéressants. Mais il y a aussi des moments très intéressants d'après-midi où on peut consacrer du temps à cela. Donc la première réponse, elle est chez nous. Comment je réorganise une boucle d'apprentissage pour ces enfants-là qui nous font souci ? Et dans le même temps, comment je fais alliance, équipe, avec les parents d'élèves, non pas pour leur dire « Ah non, mais là, ça va pas du tout, on va à la catastrophe, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela », mais bien, là, il y a un petit écart. Et donc, il va falloir qu'on s'y mette, vous, les parents, nous, les enseignants, pour qu'on conduise ensemble un certain nombre de choses. Donc vous, dans votre métier de parent, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'accompagner, pour l'aider ? Nous, dans notre métier d'enseignant, qu'est-ce qu'on va faire pour l'accompagner ? Et du coup, on n'a pas ces pauvres parents qui reviennent de la distribution des carnets ou bien du retour du carnet à la maison et qui sont complètement défaits. Et qui sont complètement défaits quand ils ont compté le nombre de points rouges et qui se disent plus jamais je n'y mettrai les pieds à l'école. Ou bien qui disent à l'enfant, mon pauvre bidule, bah t'es comme ton père, hein, il était nul à l'école. Et qui peuvent dire ça à 4 ans à des enfants qui l'entendent et qui l'intègrent. D'où la nécessité pour nous d'y croire et de les accompagner. Du coup, ce qu'on dit aux parents, c'est effectivement il y a un petit écart, effectivement il y a des choses à faire, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble ? Parce que sur cette idée de l'évaluation, quand on est l'un d'entre nous, et que votre enfant ou votre neveu ou votre nièce ou votre petit-fils revient de l'école avec un truc qui a été complètement raté, un truc important qui a été complètement raté. Qu'est-ce qu'on fait tous ? On va à l'école, on essaie de comprendre quel était l'enjeu et on essaie de comprendre ce que nous, on peut faire pour accompagner. Attitude normale de n'importe quel parent qui nous ressemble. Les parents qui sont un peu plus éloignés de l'école et qui nous ont confié un enfant qui allait bien. Vous voyez, le pédiatre avait dit que tout allait bien, il se développe bien, le médecin a dit que tout va bien, il voit bien, il entend bien, on nous le confie en bon état. Et nous, des fois, un an après, on leur rend en difficulté avec du rouge partout. Mais ils n'ont qu'une envie, c'est de leur prendre, puisque c'est l'école qui les a rendus en difficulté, leur enfant. Parce que sinon, à part l'école, ils le disent d'ailleurs, à part l'école, il va bien. Vous voyez ce qu'on est en train de construire ? Donc cette idée aussi d'alliance avec l'école, elle est déterminante. Donc, je reprends mon propos. Développer une évaluation positive, c'est donc avoir un esprit positif qui n'a pas pour objet de masquer les écarts qui peuvent arriver, mais bien d'essayer de les repérer et de voir quand ils sont préoccupants, ces écarts, la façon qu'on pourrait avoir, un, de les traiter, deux, de communiquer avec les parents. Et dans les outils qu'on a mis en ligne sur le site EduSchool, au-delà des observables, des activités et des objectifs, on a essayé d'élaborer, chacun dans nos domaines, il se trouve que moi je me suis occupée des maths, d'autres équipes se sont occupées de d'autres domaines d'apprentissage, on a essayé d'élaborer une liste de points de vigilance, comme on nous l'a montré tout à l'heure, point de vigilance, le geste, point de vigilance, l'orientation. On a essayé d'élaborer une liste de points de vigilance qui doivent permettre aux enseignants de se dire, ça a été travaillé, peut-être qu'il y a quelque chose à reprendre. La question des manques à voir de façon positive, et puis la communication aux parents, j'en ai parlé, je n'y reviens pas. Alors bien sûr, la clé de cette observation positive vers une de cette observation formative vers une évaluation positive, c'est bien la question de l'observation. Et Patrick l'a posé tout à l'heure. Comment on s'y prend pour observer? Mais moi, j'ai envie de dire d'abord, qu'est-ce qu'on observe? Et immédiatement, la question de formation, au-delà de comment on s'y prend pour observer 30 mômes, c'est qu'est-ce qu'on regarde? Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on regarde? Ce sont les traces visibles de l'apprentissage en train de se faire, en train de se mettre en route, en train de s'actualiser. Mais pour ça, d'abord, comme ça a été dit ce matin et cet après-midi, il faut être là. On se renvoie bien à l'idée du journaliste, là. Si on n'est pas là pour voir ce qui se passe, si on n'est pas en interaction avec l'enfant pour essayer d'identifier les procédures qui ont pu le conduire à, on ne verra strictement rien. Donc il y a la question de la disponibilité de l'enseignant. Après, observer quoi ? Ben, observer d'abord, j'ai envie de dire, le tout venant. Observer le tout venant du rang, de l'entrée en classe, de la cour de récréation, de l'installation dans les espaces, cette fois-ci aménagés en fonction de l'âge et de l'intérêt des enfants. Qu'est-ce qui s'y passe ? Quel genre d'interaction s'y produisent ? Qu'est-ce que les enfants vont spontanément faire ? Voilà, le tout venant de ce qui se passe. Observer aussi, à partir d'intentions que l'on a, parce que, en fait, ce qui a été proposé dans les documents d'accompagnement, c'est bien l'idée que on a trois temps, en gros, d'observation. On a l'observation des moments un peu informels qui nous apprennent énormément de choses, sauf que les trois quarts du temps, l'enseignant n'est pas là pour le voir. Et là, on est dans du diagnostic et dans du formatif qui va permettre de réguler les dispositifs d'apprentissage qu'on va proposer. Après, on a de l'observation dans les ateliers que l'on conduit. J'ai plus envie de dire dans les activités dirigées que l'on mène. Qu'on les mène avec 10 enfants, 15 enfants ou 2 enfants ou 4, de toute façon, il y a toujours de l'interaction. Alors, il y a de l'interaction langagière, mais là, il y a de l'interaction visuelle, il y a de l'interaction corporelle qui nous montre s'ils sont en train de s'engager ou non, s'ils sont ailleurs, ce que les yeux disent, comment ça s'arrête, les pauses, les interventions spontanées du corps, voilà, tous ces éléments d'intervention sont déterminants, voire même pour des enjeux d'apprentissage extrêmement pointus et précis. Je pense au domaine du langage, je pense au domaine de la quantité et du nombre, des observations instrumentées, préparées avec des dispositifs d'apprentissage, d'activité avec du matériel où on peut la observer tout en étant en interaction avec les enfants, ce que les enfants font, disent, montrent, font avec d'autres. La clé de cette affaire-là, c'est bien l'observation, et on sait bien que c'est ce que les enseignants vont avoir le plus de mal à acquérir, d'abord à cause de la question du nombre, mais aussi parce que ça les oblige à décaler leur posture. Tout à l'heure, on a dit lâcher prise. Alors, moi, il me fait un tout petit peu peur ce mot de lâcher prise, parce que je me dis, mince, si on continue, si on commence à dire qu'on lâche les manettes de la conduite de la classe, on va louper l'école qui enseigne, je vous renvoie à la diapo d'avant, et on va revenir à un modèle totalement détestable où en fait on aménage l'espace et puis on fait un peu, ils font ce qu'ils veulent, et comme l'espace est très aménagé, très agréable, il va se passer des choses, ça va être un peu la crèche quoi. Et nous, on sait bien que ça va, on sait à qui ça va profiter, mais on sait surtout qui on va laisser sur le bord du chemin. Donc, comment articuler l'école qui enseigne, qui est notre fil rouge, là, si on lâche l'école qui enseigne, si on lâche l'émergence permanente de l'école qui enseigne comme une exigence absolue, on pourrait dire une ardente obligation de tout enseignant aujourd'hui, et c'est déjà une révolution à installer. On ne peut pas parler de lâcher prise. On ne peut parler de lâcher prise que si on est bien dans l'école qui enseigne et si on accepte par moment, me semble-t-il, deux choses. La première, c'est de temps en temps de conduire des activités dirigées avec des petits groupes. Et Sylvie dirait, en ayant le derrière vissé sur sa chaise, sans bouger du petit groupe, parce que sinon on ne conduit pas l'activité, on n'est pas en interaction et on voit rien. Et le simple fait de se lever une seconde pour aller réorienter l'activité du groupe à côté ou calmer machin qui est en train de faire le cirque, c'est fini, c'est perdu. D'autant que je suis tout à fait d'accord, certaines séances durent une demi-heure, mais d'autres, en particulier avec les tout-petits ou les petits, ça va durer 3 minutes. Alors vous rendez compte, ou 5 minutes si on se lève pendant ce temps-là. Donc accepter qu'il se passe des activités qui ne sont pas sous contrôle absolu, hormis la sécurité, qui est notre impératif à tous. Mais que bon, dans d'autres activités, il va se passer des choses qu'on va pas forcément contrôler. Deuxième type de lâcher prise, de temps en temps, ne dirigez rien. Alors ça, c'est le pire. Ne dirigez rien sans faire la police en sillonnant la classe pour rectifier les postures, bien sûr. Ne dirigez rien. Avec comme seule entrée, bien sûr, la sécurité est assurée. Alors ça suppose d'avoir organisé du dispositif, d'avoir fait des hypothèses de comportement d'enfant et d'avoir une observation active de ce qui est capable de se mettre en œuvre pour pouvoir réguler et les espaces, et les équipements, et les dispositifs. Mais encore une fois, comme ça me fait peur, lâcher prise, et c'est pas parce que je suis inspectrice, c'est parce que je pense qu'on y risque gros, on ne peut le tenir que si on est dans une école qui enseigne. Toute l'orientation de ce programme, ainsi que l'évaluation positive, est au service d'une école. Dans le programme, c'est écrit, hein, juste pour tous, exigeante pour chacun, mais eh bien au service d'une école qui permet quelque part à tous de réussir. Donc du coup, notre cible, c'est bien les enfants qui ne bénéficient pas à la maison de l'accompagnement métacognitif pour leur permettre de comprendre ce qui se passe à l'école et ce qu'on y apprend, et c'est donc bien notre travail. N'empêche que, accepter de temps en temps de n'enseigner rien, de ne diriger rien, pardon, tout en enseignant, pour regarder ce qui se passe, en prendre des informations et aller réguler des propositions qu'on a faites, c'est déterminant. Alors, pas toute la journée, bien entendu. Alors, bien sûr, j'entends bien ce que vous pensez. Il faudrait convaincre la totalité des formateurs, ça tombe bien, on est tous là. Il faudrait convaincre la totalité des IEN, je vous entends penser, j'en suis une, donc voilà. Oui, mais il faudrait, vous avez raison, mais en même temps, quel dialogue entre les formateurs et les IEN? Les IEN sont peu formateurs parce qu'ils ont peu de temps dans la formation, ils sont prescripteurs. et pas que, ils sont évaluateurs et prescripteurs. N'empêche que on ne fera pas bouger ces pratiques-là si la totalité des formateurs n'est pas totalement convaincue que c'est ça qu'il faut faire advenir. Et comme disait Sylvie ce matin, si on n'est pas capable de fournir des outils aux enseignants qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent pas construire. Qu'ils n'ont pas. Même, ils n'ont pas le temps de le construire, mais c'est un métier de construire des outils en plus du temps. Il n'y a pas que le temps. Il y a, si on a besoin de chercheurs qui font presque que ça de leur temps, que d'inventer des protocoles, les mettre en œuvre, les observer, les formaliser. C'est bien qu'on ne peut pas faire ça quand on est enseignant 24 heures par semaine, plus les 108 heures, plus tout le bazar. Hein. Non, mais on n'est pas au même niveau, Sylvie, tu sais bien, et ça c'est important. Le presque avant-dernier point de cette affaire, c'est la question du devenir élève. En introduction, et parce que c'était aussi dans le rapport de 2011, et parce que c'est un point qui nous soucie énormément, le devenir élève est devenu une modalité de discrimination des enfants à l'école. C'est-à-dire qu'on les évalue, on les juge et on les met à l'écart en fonction de comportements normés que l'on attend d'eux par rapport à un comportement scolaire qui n'est pas un comportement d'apprentissage, mais qui est un comportement de normativité, d'écoute et d'attention. Nous pensons que l'évaluation positive implique des enjeux importants autour du devenir élève, et là sur le plan cognitif. Parce que quand même, si on imagine cette démarche d'apprentissage avec le repérage régulier par l'enseignant des traces qui montrent que quelque chose est en train de se passer, on appelle ça, nous, le petit groupe, des traces significatives de réussite sur le parcours d'apprentissage. Si l'enseignant sait que c'est ça qu'il doit observer, si l'enseignant prend le temps de l'observer, on en a parlé dans la diapo d'avant, et s'il est capable avec l'enfant sur le temps, avec l'enfant qui s'est entraîné tranquillement à mémoriser, à stabiliser sa procédure, à la transférer dans un contexte connu, puis après dans un contexte inconnu, en mobilisant toutes les compétences nécessaires pour qu'il arrive à le faire, si ça on l'a verbalisé avec lui, et si en plus, au cas où ce serait possible, on est allé l'écrire dans un coin du truc qui s'appelle carnet de suivi, alors on est en train de le faire entrer dans ce que nous pensons déterminant de la posture d'élève, autrement dit, se représenter ce qu'ils viennent faire à l'école. Parce que c'est exactement ça. Or, vous savez bien, et on le sait depuis Bautier, Rochex, et il me semble que c'était 78, que 1900, que la plupart des élèves de l'école maternelle continuent de penser qu'ils sont là, parce que ça débarrasse les parents, que les parents doivent travailler, que la nourrice c'est cher, ou qu'ils ont autre chose à faire, ou qu'on est infernal à la maison. C'est la plupart des réponses que donnent les enfants que l'on questionne sur pourquoi t'es à l'école. Après, ils disent qu'on s'amuse bien, qu'il y a des copains. Jamais ils ne disent que c'est parce qu'on apprend des trucs qui vont nous permettre de devenir grands et en gros de prendre du pouvoir sur le monde. Nous pensons que cette question d'accompagnement étayé, verbalisé, de mise en lumière de réussites significatives, et pas de la rigolade, hein, des vraies réussites significatives sur le chemin de l'apprentissage, nous pensons que ça les fait entrer, avec les 3 ou 4 ans dont ils disposent, donc pas en 5 minutes, dans la construction d'une posture d'élève qui devrait pouvoir être aboutie à la fin de l'école maternelle. D'autant plus si on fait régulièrement avec eux ce que Viviane Bouys appelle des pauses méthodologiques d'élucidation, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avant. On est parti d'où? Alors je vais reprendre mon affaire des traces parce que c'est tellement visible. C'était quoi le projet au départ? Tu te rappelles ce qu'on s'était dit? On avait dit ça va être difficile, mais on va y arriver, je vais t'aider. Alors au début, regarde, tu faisais ça, et puis après tu as fait ça. J'ai même marqué la date. C'est ça, a pris du temps, ça a été long, tu as essayé plein de fois. Et puis maintenant, tu en es là. Pause méthodologique, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi le balisage de ce chemin pour lequel j'ai pu, comme je pouvais, moi l'enseignant, te tracer les étapes? Et on en est là aujourd'hui. Donc regarde sur ce qui s'est passé. Et maintenant, on va pas s'arrêter là et on va faire ceci, ceci, cela. Et si on est capable de mettre ça en lien avec les procédures que les enfants utilisent et qu'ils vont progressivement complexifier, surtout si par moment on a des moments de retour sûr avec des petits groupes autour des procédures sur des supports d'abord connus puis progressivement inconnus pour entraîner le transfert des compétences, alors on peut penser que cette démarche d'évaluation positive va les aider à comprendre l'école, et pas seulement ceux qui bénéficient à la maison d'un discours parental qui met chaque jour en perspective. Vous n'oubliez pas que les enfants qui redoublent le moins à l'école élémentaire sont les enfants d'enseignants, et en particulier les enfants d'enseignants du premier degré. Alors c'est pas parce qu'ils sont excellents, les enfants d'enseignants du premier degré, c'est parce que tous les soirs, les enseignants du premier degré comprennent au balbutiement de leurs enfants sur « on a fait ça avec des trucs, des machins incompréhensibles ». Mais comme on est enseignant, on sait complètement ce que ça veut dire, ce que ça va entraîner, on est capable de le décoder, on produit du discours sûr, on entraîne les enfants à faire des liens, à décoder le projet d'apprentissage derrière les activités. Quand on a le carnet dit de, je sais pas quoi, de vie, d'exercice, de machin, on redécode, on refait du méta encore une fois, en plus de ce qu'on fait tous les jours. Résultat des courses, 3%. De redoublement chez les enfants d'enseignants à l'école élémentaire. Ça se gâte au collège. On est moins bon, on comprend moins bien le projet d'apprentissage du collège. Du coup, pour nos mômes, ça se gâte dès qu'ils arrivent au collège, on se met à être doublé par les profs. Chiffre de l'ADEP. Cette affaire-là d'évaluation positive nécessite ce que j'appelle moi, alors là, je n'engage plus que moi, ce que j'appelle des outils de mémoire et de partage. Je postule qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien, quand on est enseignant, ce qu'on doit observer. C'est quoi les réussites significatives dans un parcours d'apprentissage sur la compréhension des textes, sur le chemin de l'écriture, sur le chemin du nombre? C'est quoi? Qu'est-ce qui est significatif? Nous appelons ça des observables. Ça signifie qu'il faut un référentiel d'observables. Là encore, ils sont pas capables de le faire. Donc ça a été fait, c'est en ligne sur le site EduSchool dans l'onglet évaluation. Il faut un outil d'observation, un carnet de bord, un cahier, un truc, un machin, où on puisse au jour le jour, à toute vitesse, avec des codes qui nous sont propres, noter les résultats des enfants de ce qu'on voit. Et puis un carnet de suivi qui permet la mémoire, qui interprète et qui traduit et qui assure la communication. Et je crois que j'ai dû oublier... Oh là là, voilà. Mais je laisserai le diaporama, donc tout va bien. Alors sur EduSchool, et je vais en terminer là-dessus. Nous avons travaillé pendant 3 mois à essayer de produire des outils qui sont modestement ce que nous avons été capables de produire avec nos compétences de formateurs. Nous avons mis le paquet, si j'ose dire, sur les observables, parce qu'il nous a semblé que c'était l'outil le plus important... à proposer aux enseignants. C'est un outil fonctionnel. Les observables que nous avons produits ne sont pas des observables à importer directement dans la classe, c'est-à-dire qu'ils sont adaptables aux élèves, à l'ici et maintenant, au moment du parcours. Et surtout, nous ne les avons pas organisés dans un continuum temporel de la toute petite à la grande section. Alors... forcément, l'idée, c'est sortir de acquis non acquis, ça vous avez compris. C'est un outil au service de l'élève et de son parcours. C'est l'idée que l'observation est au centre. C'est l'idée de prendre des repères et d'ajuster. Et surtout de sortir absolument, absolument des normes. Alors, ça se présente comme ça. Je sais bien qu'au premier abord, ça fait un peu... Ça fait un peu touffu. En même temps... Alors ça, c'est juste la proposition d'observable, juste. À côté, vous avez des outils sur qu'est-ce que c'est qu'un carnet de suivi, qu'est-ce que l'évaluation positive, qu'est-ce que ça n'est pas, comment on peut s'organiser, et 2-3 exemples de carnet, mais 2-3 exemples seulement. Donc, chaque petit rond représente un domaine d'apprentissage, et chaque petite flèche renvoie à des familles d'observables. Et quand on ouvre une famille d'observables... ça donne ça. Mais en fait, quand on a des petites sections et qu'on se propose de construire, par exemple, le nombre pour exprimer des quantités, eh bien, en gros, on va traiter des 2 premiers observables. Parce que les enseignants disent, mais vous vous rendez compte du nombre de fiches? Parce que dans mon département, j'ai déjà commencé à le proposer. Mais il y a je ne sais combien de fiches d'observables. Oui, mais c'est toute la scolarité. Donc à chaque enseignant, en fonction de l'identification de là où en sont les élèves, de se dire, je vise quoi? J'ai des petites sections ou des tout petits, je suis en début d'année sur la question de la construction du nombre, c'est pas une paille, surtout dans ce pays où on est complètement en difficulté. La première compétence que je vais travailler, c'est estimer des quantités avec 2-3 observables de rien du tout. Et surtout, comme on n'a pas de documents ressources, une tonne d'activités, des liens, des propositions pour que les enseignants ayant les observables ne soient pas démunis sur les activités. Alors la conclusion, Patrick, elle arrive. Donc je vous renvoie à EduSchool, vous avez toutes les fiches. Bien sûr, s'engager dans une évaluation positive au sein d'une école bienveillante, c'est d'abord une liste infinie de questions, de résistance, d'énervement, d'envie de se disputer avec son formateur, d'envie de refermer tout et de faire comme avant. On dirait qu'on ferait comme avant. Parce que ça questionne sur les pratiques, ça questionne sur les gestes, ça questionne sur les outils, puis je ne l'ai pas écrit mais j'aurais dû l'écrire, ça questionne sur la journée, l'organisation, les activités, la place du maître. Alors moi je crois que c'est d'abord une affaire d'équipe, d'équipe d'école. On ne peut pas faire ça tout seul et donc nous les formateurs, il faut qu'on arrive à travailler avec des équipes autant qu'on peut. Je crois aussi que c'est une affaire de temps. On ne peut pas dire aux enseignants d'école maternelle, arrêtez de leur courir, de courir devant eux, ils ont 4 ans, et nous prétendre que l'année prochaine, ils aient tout réglé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on leur donne 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le temps qu'il faudra, puisqu'on est bien dans une transformation en profondeur. Elle est là, la loi de refondation pour l'école maternelle. Alors il faut leur laisser tout le temps dont ils ont besoin. Et puis je crois surtout, surtout, et à l'école maternelle on est assez bon pour ça, je crois surtout que c'est une question de créativité, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils inventent, qu'ils cherchent, qu'ils trouvent, qu'ils balbutient, qu'ils tâtonnent et qu'ils essaient des trucs. Mais avant tout, je crois que c'est une question d'accompagnement et de formation. Alors je voudrais dire pour terminer que la ministre a décidé, madame Najat Vallaud-Belkacem a décidé que les créations de postes, cette année et l'année prochaine, seraient quasiment exclusivement destinées à ce qu'elle appelle du qualitatif et doivent être consacrées dans tous les départements à la création de postes de remplaçants pour permettre de remettre en place un peu de formation continue sur le temps de travail. Nous avons donc, nous les formateurs, quel que soit l'endroit et le niveau où nous sommes, nous avons à exiger que cette demande de la ministre renvoyée aux recteurs, qui sont les dépositaires des postes à répartir dans les départements, que cette demande de la ministre soit effectivement mise en œuvre dans les départements. Le niveau que demande la ministre et qui ne pourra pas être réalisé, mais en tout cas c'est notre utopie de référence, c'est 3 jours de formation sur le temps de travail par enseignant et par an. À nous de jouer.